est blanche.
40 nuances de Next.
Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathiot, Thomas Benzazon et Solène Etienne.
Je démarre cet épisode sur une route accidentée. Mon fidèle co-host Olivier Mathiot bloqué et donc malheureusement absent. Mon invité Thibaut Chary, fondateur de Yes Park, en retard. Pourtant, les studios Feuilles Blanches sont en plein cœur de Paris. L'adage dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et peut-être vrai. T'as eu des difficultés à te garer ?
Écoute, je suis un mauvais exemple parce que je suis un bon Parisien sans voiture. Pas comme l'exemple de nos clients.
Donc, t'es pas un utilisateur fidèle de ton propre service.
Et non, non, non.
Alors, je te propose de lancer...
Pitch or mon pitch. Pitch or mon pitch.
Olivier, je le disais, certes absent, mais il reste un bon élève. Il n'a pas séché ici pour ne pas avoir fait ses devoirs. J'ai donc son incontournable introduction entre les mains. La voici. Yes Park, créé en 2014 par Charles, Thibaut et Guillaume. Vous avez levé 28 millions d'euros en 2022 auprès de Ring Capital, Sophie West, Founders Future, la Banque des Territoires, NEOT, Green Mobility. Vous êtes spécialisé dans la location de parking longue durée pour les particuliers rentables. Non, il y a eu à la ligne pour les particuliers. Ensuite, point important, il y a même un emoji avec un gros point d'exclamation rentable. Ça, c'est la boîte. Un chiffre d'affaires de 17 millions en 2021. Présence en France, évidemment, aux Pays-Bas et en Italie. 60 000 places disponibles en 2022, dont 500 électriques. Un objectif de 200 000 places en 2025 qui était affiché au moment de la levée de fonds, dont 30 000 électriques. On est bon là sur les projections ?
Ouais, on les a revus légèrement à la baisse. On va plutôt être à 100 000, ce qui est déjà très bien.
C'est déjà pas mal. Et ensuite, on détaillera tout à l'heure, évidemment, la structure de la boîte et les ambitions. Vous n'avez jamais levé de fonds avant celle-ci. Donc recharge électrique en ligne de mire, 8 millions d'euros dédiés aux bornes infra. Ça, c'est pareil, c'était les chiffres à l'époque. Est-ce qu'ils sont toujours bons ?
Oui, ils sont toujours bons. On n'a pas tout dépensé, mais ouais, c'était ce qui était budgété.
Face à l'explosion de la vente de véhicules électriques, il y a un boulevard, une diversification B2B, B2C et aussi en ligne de mire les parkings de vélo. Alors, on a une solution pour trouver une place de parking, comme ça, ça paraît simple à mettre en place, facile à expliquer, facile à comprendre, facile à pitcher. Est-ce que ça a vraiment été si simple ? Ou autrement dit, Thibaut, qu'est-ce qui a été difficile ?
On est sur un marché de plateforme, donc il faut à la fois trouver l'offre et la demande. On fait la mise en relation entre les places de parking qui sont vides en souterrain et les clients qui cherchent à se garer. Réussir à trouver l'équilibre entre les deux, c'est pas toujours facile. On a quand même une plateforme qui est un peu déséquilibrée dans le sens où ce qui est rare dans les grandes villes, c'est pas tant les automobilistes, c'est surtout les places de parking. Ça, c'est un vrai travail du quotidien. Parce que ces places-là, elles existent, elles sont sous des immeubles d'habitation, sous des immeubles de bureaux. Elles sont là, mais il faut quand même aller les chercher. Et on a toujours orienté les choix stratégiques de la boîte plutôt en faveur des places, c'est-à-dire quand il y a un conflit entre propriétaires et utilisateurs, on va plutôt favoriser les propriétaires, aller chercher l'offre. Donc ça dessine quand même un petit peu la façon dont on prend des décisions stratégiques. Mais c'est un vrai travail du quotidien, il faut aller les chercher. Voilà, à la mano, il faut les gratter. Aujourd'hui, on a à peu près 65 000 places. C'est vraiment un travail du quotidien. Et depuis 10 ans, on ne lâche pas le morceau. Et tous les métiers de la boîte sont assez orientés vers ça. Même les métiers qui s'adressent aux automobilistes, typiquement le marketing, bossent beaucoup pour agréger cette supply, cet inventaire de places.
Même si quand on arrive, parce que du coup, j'ai fait mes devoirs, j'ai une place de parking, donc tu gagneras peut-être une nouvelle place à la fin de l'émission. Vous êtes propriétaire, faut quand même rentrer dans le petit menu. C'est pas proposé directement dans l'app.
Ouais, parce que la plateforme, l'app et le site web sont quand même très orientés utilisateurs.
Trouver vite une place de parking.
Exactement. Voilà, c'est
transformer la demande en client.
Exactement. Les principaux canaux d'acquisition côté propriétaire sont des démarches commerciales B2B classiques. En fait, on s'adresse que depuis relativement récemment à des propriétaires particuliers, comme toi ou comme moi, qui ont un parking sous leur appartement. Ça fait 2 ans à peu près. Historiquement, pendant 8 ans, on s'est adressé à des propriétaires entreprises, à savoir des bailleurs institutionnels comme les bailleurs sociaux, des propriétaires d'immeubles de bureaux, des hôtels, donc vraiment des entreprises qui ont tout un immeuble en entier et tout le parking entier dessous. Il est probable que tu habites dans une copropriété où tu as un seul appartement et une seule place de parking.
Ouais.
Et ça, c'est plus compliqué à aller chercher.
Disons
on a dû être un peu
plus
mûr.
C'est un an, ouais, il faut...
faut aller chercher. C'est une démarche qui est un peu différente, qui est plus marketing, qui est moins commerciale. Donc ce segment est assez récent et représente, même si c'est en progression, encore une part assez faible de notre inventaire de place. C'est pour ça que le site web est vraiment tourné utilisateur et beaucoup moins propriétaire.
Ça représente quoi en termes de pourcentage?
Là, sur l'acquisition de places, on va être à peu près une 15% de particuliers cette année, à peu près.
Et comment on va convaincre justement ceux qui ont 10, 15, 200 places pour vous suivre, vous?
Et bien justement, on y va, c'est ce que je disais, à la mano, il y a beaucoup de force de conviction parce que la proposition de valeur, elle semble très séduisante initialement. C'est pour ça qu'on a tout de suite sauté sur l'idée. La proposition de valeur, c'est toi propriétaire de places, tu as des places vides, tu vas pouvoir gagner de l'argent sans rien faire. Enfin, ça semble très alléchant. Une fois qu'on a dit ça, le propriétaire tout de suite dit « Bah oui, moi ça m'intéresse, évidemment, mais quid de la sécurité? Je veux surtout pas que louer ces 10, 20, 30 places que j'ai de vide dans mon sous-sol dérange mes locataires qui sont en fait mon véritable métier. C'est vrai sur le logement, c'est encore plus vrai sur l'immeuble de bureau. Et de surcroît, évidemment, le loyer que je vais gagner en louant une place de parking... Et,
ça va pas se faire au détriment.
Voilà, parce qu'il est bien inférieur au loyer que je vais louer en louant ma surface de bureau. Donc j'ai un vrai sujet là-dessus. Et ça passe par rassurer sur qui sont nos clients, sur la maîtrise qu'on a, la maîtrise des accès, et tout un travail de réassurance où chaque client avec lequel ça se passe bien va pouvoir être un exemple pour le suivant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail de conviction derrière et que c'est un vrai travail commercial.
Alors comment on assure justement cette sécurité
Ben, on a une grosse innovation technologique qu'on appelle la YesBox. Quand le client loue sa place en ligne sur son ordinateur ou son téléphone, dans la foulée, il a accès au parking avec son téléphone. C'est le téléphone qui ouvre la porte. Ça, c'est génial pour le client. C'est instantané, c'est automatique. C'est génial pour nous parce qu'on n'a rien à faire, en fait. C'est complètement automatisé. C'est aussi génial d'un point de vue de la sécurité parce qu'on a un accès en temps réel, un contrôle sur les accès en temps réel. Donc, on sait qui rentre, qui sort. On peut couper l'accès si la personne ne respecte pas les règles. Là où un système de badge traditionnel est un peu moins fiable, la plupart des systèmes de badge classiques, de bip pour ouvrir les portes de parking, si vous l'avez et que vous ne le rendez pas, vous pouvez toujours rentrer dans le parking. Et ça, c'est une vraie innovation technologique qu'on a.
C'est facile à plugger ?
C'est facile à plugger. On branche un petit objet connecté sur la porte de parking. Ça se fait très simplement. Ça ne change rien au fonctionnement habituel du parking.
Et pour ça, il te faut l'accord de toute la copropriété.
Et voilà, il nous faut l'accord du propriétaire.
Toute la problématique.
Exactement.
Quand tu es avec un particulier en direct.
Voilà, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps avant d'adresser ce secteur, parce qu'il faut être plus mature. Et c'est d'ailleurs une approche commerciale différente, je l'ai dit, mais même une approche de la gestion des accès différente, parce que là, pour le coup, on utilise les badges du client, parce qu'on ne pourrait pas brancher cet objet. De surcroît, ça reviendrait beaucoup trop cher pour louer juste une place.
J'ai pas mal de micro-sujets, mais sur lesquels, à mon avis, on peut tirer pas mal de fils. Sur l'UX, l'expérience utilisateur, comment on arrive à une UX presque sans friction sur un sujet comme le vôtre?
C'est un très bon point. Nous, on est une boîte d'ingénieurs, initialement. Il y a cet ADN qui est assez fort dans la boîte. Donc, je pense que par définition, on aime les choses bien faites, qui marchent bien, précises. C'est assez fort dans le qui on est. Cofondateurs et qui sont les salariés de la boîte et comment ils aiment réfléchir. Donc il y a ce premier élément. Et puis assez tôt, comme on était tout fraîchement sorti d'école, même pas encore diplômé, on s'est dit oh là là, il faut qu'on trouve un moyen d'apprendre plus vite parce qu'on est trop jeune, on n'a pas d'expérience. Et on s'est donné un certain nombre de recettes, de méthodes de travail. Une de ces recettes, c'est de copier les meilleurs. Voilà, on s'est dit, on va regarder Airbnb.
C'est bien de l'assumer.
Très clairement, enfin, c'était affiché en gros dans le bureau. Donc, le site de YesPark à l'époque, c'était vraiment un copier-coller d'Airbnb. Il ressemble encore beaucoup et Airbnb est tellement devenu un modèle que beaucoup de sites qui lui ressemblent. Et on avait un autre modèle qui était Capitaine Train à l'époque, qui est une trendline, qui eux sont, je trouve, excellents sur ces notions d'UX. Donc, on a essayé, enfin, bêtement, on les a copiés. Hein, je m'en excuse et je les félicite, c'est que ce sont des bons modèles.
Je ne suis pas sûr qu'ils t'en veuillent.
Je ne pense pas. Je n'espère pas, en tout cas. Mais voilà, on les a copiés. Je pense que ça aide beaucoup à gagner du temps pour appliquer les bonnes pratiques sans forcément les avoir expérimentées avant. Et on a quand même un enjeu qui est un petit peu différent ou qui va presque au-delà d'un train line, c'est qu'on a une dimension physique qui est très importante, puisque certes, il faut que l'UX soit excellente pour louer sa place de parking, mais on a, in fine, des vrais gens qui vont avec leur vraie voiture dans des vrais parkings avec des problématiques très bêtes de « ma voiture est trop grosse, je risque de la rayer en descendant la rampe, je trouve pas la place de parking où je la trouve, mais en fait, elle est squattée, il y a quelqu'un qui est garé dessus, comment je fais ?» Donc il faut, enfin c'est un travail qui va plus loin qu'un travail du UX purement digital.
Parenthèse, tu fais quoi quand la place est prise par un voisin
Ben, on a un premier travail, c'est de faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc en ayant à nouveau un contrôle des accès qui est précis, en ayant une très bonne interaction, relation avec le gardien de l'immeuble qui est sur place, qui lui est nos yeux et nos oreilles et va permettre d'éviter ça. En travaillant aussi avec le propriétaire, parce que souvent ça vient du fait que le listing des places est un petit peu erroné. Voilà, il y a eu des erreurs qui se sont accumulées au fil du temps. Donc éviter que ça arrive. Et ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on garde toujours un stock de places de disponibles pour pouvoir faire changer la personne
quand
de place.
Quand tu as tout un parc dispo.
Et exactement, voilà.
Copier l'UX d'un Airbnb ou d'un Captain Train, ça va jusqu'où? C'est-à-dire la forme des boutons, les ombres peut-être derrière, ou c'est même un peu plus large sur le menu, comment on passe de « je vois l'offre disponible » à la résa?
C'était franchement au pixel près la même chose, hein. Même notre
on a
logo,
juste changé le logo.
Ouais, non, mais même le logo était très fortement inspiré. Alors à l'époque, c'était le logo, le premier logo d'Airbnb qui est plus d'actualité aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, pixel près sur tout ce qui est UI, et même dans l'UX, un petit peu dans l'intention. Nous, typiquement, Captain Train, on avait la perception que c'était plus une app qu'un site. En tout cas, c'est comme ça qu'on le percevait, c'était peut-être erroné d'ailleurs. Et donc, on s'est dit, nous, on veut être aussi plus une app qu'un site web, donc redirigeons plutôt les personnes vers l'app. Alors, on a un petit peu changé de positionnement depuis, tout cela a évolué.
Pourquoi ?
On s'est rendu compte qu'il y avait une bonne partie. Donc initialement, on était très app. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne partie des gens qui étaient sur le site, qu'il fallait être bon. Et puis là, de plus en plus, on voit quand même que le trafic app est plus important et les taux de conversion app est plus important. Donc on essaie aussi de suivre un petit peu les évolutions des usages. On apporte un peu plus d'intelligence aujourd'hui. On continue de copier, ça reste toujours une des recettes de la boîte. On essaye de prendre un petit peu plus de recul.
Ah, vous copiez qui maintenant ?
Toujours Capitaine Train, enfin Trainline, c'est toujours un de nos modèles, très clairement. Et après, je sais que mon équipe produit... Et très au fait de tout ce qui se fait de bien. Donc, je ne connais pas exactement quels sont leurs modèles aujourd'hui, mais je sais qu'ils ont...
continuer de regarder, de s'inspirer.
C'est toujours intéressant. Et même sur d'autres sujets d'ailleurs, pas que sur des sujets de vie.
Ouais. Et là-dessus, vous avez ajouté votre touche ?
Et on essaie d'ajouter notre touche, ouais. Ouais, on s'est musclé. Au début, tu ne peux pas tout faire. Donc, tu fais comme tu peux. Et notamment, tu copies pour accélérer un peu. Là, on s'est étoffé. On est environ 80 personnes. Et typiquement, sur les sujets... d'UX, alors je vois plutôt d'UI ici, mais ou en tout cas de marque, quand on dit ajouter sa touche, on a aujourd'hui une vraie marque et je pense commence à être connue dans le monde du stationnement avec une vraie identité qui est forte, un vrai message qui est fort, une raison d'être qui commence à être de plus en plus vécue et je l'espère exprimée en dehors de la boîte et donc aussi vécue par les clients.
C'est quoi la raison d'être ?
Nous, ce qu'on se plaît à se dire, c'est que la ville est en train de changer fortement, qu'il y a des enjeux de mobilité et de durabilité qui sont quand même assez indissociable. On ne peut pas imaginer une ville mobile, mais absolument pas durable. Et inversement, on ne peut pas imaginer avoir une ville durable, mais qui est complètement figée, immobile et qui ne vit plus. Donc on veut tendre vers cet idéal de ville mobile et durable. Et on est convaincu que pour ça, il y a un atout qui est indispensable. C'est le foncier, et notamment le foncier en souterrain, qui permet de faire place à cette ville de demain en canalisant le stationnement qui est aujourd'hui en voirie vers le souterrain. Et avec ça, on peut faire des choses formidables. Parce qu'on va libérer toutes les places qui sont occupées sur la voirie. On peut faire des terrasses de café, des pistes cyclables, on peut planter des arbres, on peut faire plein de choses.
Tu parlais de la raison d'être. Si on parle communication, il y a eu des bons coups de la part de YesPark.
On est assez fiers. Alors, c'est plutôt des coups tactiques.
Ouais.
On a réussi quelquefois à... choper des culs de bus typiquement pour pas cher, mais parce que c'était aussi dans des périodes creuses, donc on est assez fiers de ça. On a fait une campagne qu'on a plutôt appréciée l'année dernière, qu'on appelait la Yes Attitude, sur un ton un peu décalé, un petit peu léger par rapport au parking. Ça nous a beaucoup plu, les résultats ont été bons. Alors c'est compliqué, on va pas... c'est un bon coup qui est quand même assez éphémère, c'est-à-dire qu'on va pas refaire tous les ans la même campagne, ça ne marcherait évidemment plus. Et l'autre bon coup qu'on a quand même un atout, c'est qu'on a des parkings, on en a 4500 en France, sur ces parkings, on met des panneaux, parking à louer. C'est quand même un atout que beaucoup de marques n'ont pas. On n'a pas la possibilité d'avoir gratuitement ou quasiment gratuitement 4500 panneaux d'affichage en France, en temps réel, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc ça, c'est quand même un atout qui est assez intéressant pour la boîte.
Si on reste sur la communication, est-ce qu'on peut parler de la communication du dirigeant ? On n'en parle pas souvent, or c'est un des premiers assets en termes de visibilité de la boîte. Est-ce que c'est des questions que vous posez avec ton associé ? Et c'est quoi votre posture ou votre regard là-dessus ?
C'est une très bonne question. On travaille évidemment dessus. Je suis là aujourd'hui, c'est un exemple évident. Comme je le disais, on est une entreprise d'ingénieurs. Ça veut dire très pointu, je l'expliquais. Ça veut dire peut-être un peu moins de facilité à se mettre en avant, à avoir la prise de parole facile, à avoir... on a plutôt une capacité, une facilité à analyser finement les choses et peut-être moins à prendre parole, à se mettre en avant. Ce qui fait qu'on est parfois un peu en lutte entre cette volonté de le faire à des fins business un ADN de boîte qui va pas complètement dans ce sens-là. Je pense que les deux peuvent se réconcilier. On a une posture qui nous est fidèle en disant les choses qu'on pense, en revendiquant aussi ce côté optimisation un peu ingénieur. Je ne veux pas dégrader l'importance du travail qui est fait dans la boîte, mais ce qu'on fait, c'est qu'on optimise l'usage des places de parking. Donc, il y a ce côté un peu minutieux, rouage fin d'une machine bien huilée. Je pense qu'on peut avoir cette posture et communiquer en tant que dirigeant tout en étant fidèle à nos valeurs. Ce qui est quand même, je pense, cette valeur, je ne la retrouve pas beaucoup dans les dirigeants qui communiquent beaucoup. C'est quand même quelque chose d'assez singulier. Je pense qu'on a une ligne de crête qui n'est pas évidente, mais on essaie de rester droit dessus.
C'est des discussions que vous avez eues avec ton associé. On a telle proposition média qui va. Il faudrait qu'on soit un peu plus visible sur LinkedIn. On dit quoi ?
Ouais, on les a très régulièrement. Le qui y va, c'est plutôt moi, mais en fait, on se répartit beaucoup les rôles aussi en fonction des disponibilités de chacun. Et on est très raccord et très proche sur beaucoup de choses. Donc, on est quasiment interchangeable avec Charles. Et ensuite, c'est vrai que sur la communication LinkedIn, on s'est beaucoup posé de questions. On se cherche encore, on se tâte encore sur le niveau de parole, le ton qu'on doit adopter, les sujets sur lesquels on doit intervenir. C'est quelque chose où on n'a pas encore trouvé parfaitement le réglage. Charles est beaucoup plus actif que moi sur LinkedIn. Ouais. C'est quelque chose sur lequel je bosse assez peu pour le coup.
Et du coup, c'est une quête de reach, de nombre de likes qui perd au-delà de la dopamine que ça génère comme sur d'autres réseaux est recherchée, ou la conversion, même sur une audience peut-être plus restreinte en client.
C'est plutôt la conversion, et à nouveau pas la conversion en client. La denrée rare, c'est les parkings.
Ouais.
Donc c'est si on peut, sur 2 ans de LinkedIn, réussir à choper un parking de 20 places, ce sera très bien, ce sera un très bon ROI. Mais ce qui fait que c'est assez difficile à mesurer, parce qu'on est sur quelque chose d'assez assez ponctuel, il n'y a pas beaucoup de volume.
C'était quoi le dernier sujet de post LinkedIn ?
Je ne sais même pas. Il faudrait demander à Charles.
Bon, on va regarder. Tu le disais, on est des ingénieurs. Parfois, on a des boîtes qui se focusent sur le produit au détriment de la vente, qui se focusent sur l'UX au détriment de la vente. Est-ce qu'il y a eu des moments de friction comme ça où il a fallu faire des choix, même s'ils peuvent être difficiles ?
C'est jamais évident. Hein. On a des exemples où on a un peu trop travaillé sur le produit, peut-être un petit peu trop. Alors c'est très bien, on a un produit qui est solide. Typiquement, à destination des propriétaires de places, on a une interface partenaire. Je pense qu'elle est de très bonne qualité. Peut-être un petit peu trop. Peut-être que par rapport à l'utilisation, on l'a un petit peu trop travaillé. Alors c'est aussi un atout. Hein. Mais là, je pense qu'on aurait pu être un petit peu plus léger. Et inversement, il y a eu des cas, notamment quand on essaie de vendre, de créer de nouvelles offres, où parfois on peut se concentrer beaucoup sur le commercial. Depuis 2 ans maintenant, quasiment 3 ans, on a une offre de location de place avec borne de recharge. On a beaucoup poussé sur le commercial au début, un peu moins sur la dimension opérationnelle. Alors là, on est moins dans le digital, mais moins dans l'opérationnel. Ce qui fait qu'on avait un petit déséquilibre, où à nouveau, il a fallu un petit peu redresser le poids du corps et être un petit peu plus, mettre un petit peu plus d'efforts sur l'opérationnel pour être meilleur dans les opérations, on va dire. Et du coup réduire un petit peu l'intensité sur le côté commercial. Donc c'est vraiment un équilibre qui n'est pas évident.
C'est permanent. Ouais. Si on parle recrutement, on dit toujours pour réussir, il faut s'entourer des meilleurs. C'est quoi votre approche déjà pour aller chercher ces talents et les recruter ?
Ça fait aussi partie des recettes de cuisine implicites de la boîte, d'essayer d'aller chercher les personnes qui vont être motivées et qui vont être bonnes dans ce qu'elles font. Hein. Je pense que les deux sont importants. Il ne faut pas juste être bon, mais il faut aussi être motivé par la boîte. Alors aujourd'hui à 80, on a un peu staffé ça. Donc on a une DRH, un recruteur qui travaille dessus. Pendant longtemps, les recrutements...
Avoir une DRH, ça ne fait pas avoir des talents.
Ça ne fait pas avoir des talents. Non, clairement. Et il y a peut-être aussi un risque qui est déresponsabiliser ce sujet-là. Et en fait, je me rends compte que les gens qui sont motivés, qui vont être pris au trip par la boîte, et qui du coup vont beaucoup se donner, ils le font aussi en partie pour les dirigeants et pour les managers, pas que, mais aussi pour ça. Et c'est pour ça qu'on essaye de rester quand même impliqué. Donc typiquement, Guillaume, le troisième cofondateur, voit toutes les personnes en entretien en phase finale pour essayer de conserver cette dimension, ce contact, et puis aussi valider que les personnes vont bien fitter avec l'ADN de la boîte.
Il y a eu des ratés, j'imagine, comme tout le monde.
Il y en a eu beaucoup, ouais.
Beaucoup.
Ouais, je pense que c'est le lot de toutes les boîtes. On essaie d'être exigeant aussi lors du recrutement et après l'arrivée des collaborateurs. Donc parfois, malheureusement, ça ne le fait pas.
Et tu as du coup, entre ces ratés et les réussites, arrivé à tirer le fil de ce qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas.
Avec un candidat.
Avec un collaborateur, ouais.
Ah, c'est... Si j'avais la recette magique, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir, je la donnerais tout de suite. Non, on ne l'a pas, je pense qu'il y a une question de fit. Alors, on est historiquement assez exigeant dessus, sur le fit culturel. Je pense plutôt plus exigeant que la moyenne des boîtes. Et puis après,
ça se traduit par quoi quand tu dis ça?
Typiquement, je le sens pas. Alors, je le sens pas, pas le candidat, mais globalement, l'interaction est une bonne raison pour ne pas aller plus loin avec un candidat. C'est pas mal, ni pour lui, ni pour nous. Simplement, il y a quelque chose d'impalpable que parfois on a du mal à rationaliser.
Ça fait gagner du temps à tout le monde.
Et ça fait gagner du temps, et il vaut mieux faire ça et que le candidat trouve un bon job qui lui correspond, dans lequel il sera épanoui, que de le prendre et puis de devoir se séparer 3 ou 6 mois après, clairement.
Il y a les recruter et puis ensuite il y a les conserver.
Ouais.
On est dans une guerre des talents. Là-dessus, vous mettez quoi en place?
On essaye d'être très attentif. Globalement, je pense que un des brins d'ADN de la boîte, c'est la bienveillance, l'attention envers les collaborateurs. Il y a beaucoup de boîtes qui le revendiquent, moi, en tout cas, je le vis personnellement. Je le vis vraiment et je sais que c'est le cas de tous les managers dans la boîte. Donc ça, je pense que ça aide à conserver, y compris dans des situations de désaccord ou des situations plus difficiles. Ça permet quand même d'avancer et de franchir ça, très clairement. On essaye d'avoir une politique salariale qui est bonne, sans dire qu'on est une boîte qui surpaye. C'est pas le cas, on est une boîte qui paye dans les standards du marché. Simplement, il se trouve que, parce que le contexte économique n'est pas très bon, on est, je pense, une boîte qui arrive à augmenter ses salariés plus que la moyenne aujourd'hui. Ça fait partie des sujets. Et puis, on travaille aussi beaucoup sur la raison d'être. On se rend compte, moi le premier, que pour être motivé, il faut savoir pourquoi on bosse. Il y a le pour qui on bosse, les dirigeants, les managers, je l'évoquais, mais aussi le pourquoi on bosse, à quoi ça sert.
Parler de transformation de la ville, c'est un peu plus puissant que juste la pure location de
bah,
passer
ouais,
parking.
Ouais. Moi, je sens que ça me prend beaucoup plus au trip.
C'est historique, ce ressenti que votre solution participe à cette révolution ou ça s'est fait au fil de l'eau
C'est historique. Simplement, on ne l'a formalisé que très récemment. C'est-à-dire que historiquement, on savait bien qu'il y avait un rôle. On discute depuis longtemps avec la mairie de Paris, évidemment, sur ces sujets de stationnement. Et on sentait bien qu'on était aligné avec la vision qu'ils avaient de la ville. Mais le formaliser, être capable d'expliquer pourquoi c'est bien, de comprendre aussi les limites du modèle et de les assumer. On a une vraie limite, c'est que certes, on va supprimer le stationnement. Enfin, on aide à supprimer le stationnement en voirie. Donc, on va permettre de faire à nouveau plein de choses. C'est quand même aujourd'hui 150 km de voirie qu'on a libéré grâce à tous les utilisateurs qui se garent en sous-sol. Donc, c'est beaucoup, quoi. Hein.
Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y avait à peu près l'équivalent de 150 000 km, t'as dit, hein?
150 km.
150, pardon.
Ouais.
Ça fait beaucoup, 150.
Bientôt 150
000. Mais 150 km de vraie qui étaient simplement non utilisées. C'était des places qui existaient.
Alors, si elles étaient utilisées, on a grosso modo, si je fais simple, un peu plus, on a 35 000 clients.
Ouais.
Ces clients, avant de se garer chez nous, en souterrain, se garer sur la voirie.
Okay.
Et donc avant, c'était 35 000 voitures, et ça fait, mis bout à bout, ça fait à peu près 150 km, qui avant se garaient donc sur la voirie,
ouais,
qui maintenant se garent en souterrain.
Mais avant, sur ces places de souterrain, c'est-à-dire qu'elles étaient vides?
Ah bah là, elles étaient vides,
pas
en souterrain.
Ouais,
non, non,
vides,
là, elles étaient vides. Ouais, complètement.
Et pourquoi?
Parce que...
La flemme, pas de solution.
Pas de solution, ouais. C'est pas évident quand on... Le métier d'un propriétaire immobilier, c'est de louer ses logements ou ses bureaux. C'est ça le driver du quotidien, le focus. S'il reste 10 places vides dans un parking, c'est pas dramatique, c'est pas le focus. Et ben, on sait que quand c'est pas le focus, on laisse souvent les choses de côté. C'est ça. Hein.
À quel moment vous dites avec tes deux associés, en fait, il y a un boulevard, enfin, en tout cas, il y a un parking avec beaucoup de disponibilité, il faut qu'on y aille.
Assez tôt. Alors, au début, l'idée était assez instinctive. On sait bien, parce qu'on l'a vu une ou deux fois, qu'il y a des places vides en sous-sol, mais c'était très instinctif. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on nous sommes allés voir des propriétaires de parking, et tous nous ont dit « Ah oui, moi j'ai des places vides, j'aimerais bien les louer, je sais pas faire, parce que c'est pas mon sujet. » Et là, on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il n'y avait pas que de la demande, mais il y avait un vrai inventaire et de la profondeur dans la supply, on appelait ça, donc dans l'inventaire de parking.
T'as pas un storytelling ou une place de parking, t'as sauvé la vie.
Non, je pense qu'il y en a, il faudrait qu'on cherche.
Si on parle orga, savoir-être, posture du dirigeant, sur ce métier de dirigeant que tu exerces, sur quoi tu as dû travailler pour devenir meilleur?
Sur la délégation, notamment. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément instinctif, donc j'essaie de donner le plus de pouvoir possible et de responsabilité à mes collaborateurs.
Quand on décide de le faire, ça pose quelles questions?
C'est faire confiance, lâcher prise. Et à la rigueur, ça, c'est pas moi, à titre personnel, ce avec quoi j'ai le plus de mal. La grosse difficulté, c'est qu'on a l'impression de plus produire. Enfin, en tout cas, moi, c'est la principale difficulté que j'ai. Je sors d'une journée, je me dis, mais j'ai rien fait. Alors qu'en fait, si, parce que j'ai aidé 10 personnes à avancer.
À solutionner leurs problèmes.
Ouais. Exactement. Et j'ai donné la direction. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses, en fait. Mais j'ai rien fait, moi, personnellement, j'ai rien réalisé presque concrètement avec mes mains. Ça, c'est quelque chose avec lequel je me bats encore. C'est difficile.
Vous en parlez avec tes associés?
Ouais, bien sûr. Je sais que Charles a aussi le même questionnement. Parfois, on se dit, exactement ça. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'est assez impalpable et parce que c'est les autres qui le font ensuite.
Et en tant qu'ingénieur, vous avez identifié des KPI pour dire que si, finalement, vous avez quand même fait quelque chose?
J'aimerais bien, ça me rassurait. Le KPI, c'est ce qu'on fait, le BP et le budget. Ouais. Et globalement, on tient les objectifs.
Ça reste les bons marqueurs.
C'est qu'in fine, ça marche plutôt bien. Ouais.
On parle beaucoup d'IA. À quel point aujourd'hui l'IA est utilisée, pas ou peu ou beaucoup, dans vos solutions?
C'est quelque chose qui m'intrigue, l'IA. J'ai tendance à être un petit peu sceptique, en tout cas pour notre métier, sur les bénéfices que ça peut apporter. Je trouve que ça peut apporter beaucoup de choses, en tout cas à titre business, à titre de citoyen. Je pense que c'est un autre débat. Mais voilà, ça peut apporter beaucoup de choses sur notre métier. Je suis un petit peu sceptique. Je ne pense pas, en tout cas aujourd'hui, que c'est la solution miracle à tous nos problèmes. Simplement, on l'utilise quand même de plus en plus. On cherche ce qui se fait d'un point de vue relation client notamment, mais là c'est plutôt de l'ordre de l'exploration. Et on l'utilise déjà dans les algorithmes qu'on a de prévision de trafic et de prévision de revenus. La première question d'un propriétaire de parking, c'est quid de la sécurité? La deuxième question, c'est mais en fait, je vais gagner combien? Et ça, il faut qu'on puisse lui apporter une réponse qui va être la plus solide possible.
Et ça, on l'a tout de suite dès la création du compte, voire même avant.
On donne une estimation, effectivement, et ensuite, quand le client, enfin le futur propriétaire, rentre en contact avec le commercial, là, on peut lui faire une estimation qui est encore plus précise, qui est basée sur les 4500 parkings, pardon, qu'on a en France, qui vont nous permettre de dire, OK, un parking qui est situé à tel endroit, dans tel type de ville, à tel prix, on va le louer à ce rythme-là, et donc ça va vous permettre de gagner temps.
Donc l'estimation que j'ai eue ce matin,
ouais,
potentiellement, elle peut être un peu à la hausse ou un peu à la baisse?
Elle peut être un peu à la hausse ou un peu à la baisse, parce que c'est une première estimation, ouais, light, on va dire, sur le site. Et on a des briques d'IA qui interviennent dans cet algo de prévisionnel.
Ça va faire 10 ans là, que Spark existe déjà. Est-ce que vous avez fêté ça?
On va fêter ça en avril, ouais. Ouais, c'est... Marquez le coup quand même.
Vous allez faire quoi?
C'est surprise pour le moment.
on va pas livrer l'info à tous les collabs qui, pour certains, j'imagine, vont écouter nos échanges. Pour parler de ces 10 ans, on a une question de quelqu'un que tu connais bien, que tu as cité. Je te laisserai nous dire qui c'est. On l'écoute.
Vous avez un message.
Salut Thibaut. Yespark va bientôt fêter ses 10 ans. C'est quoi ta plus grande fierté?
Pose des questions sympas entre associés.
Bon, ça va. C'est une bonne question.
Guillaume.
C'est Guillaume, effectivement. Je suis très fier d'avoir construit avec toute l'entreprise, tous les collaborateurs, une société rentable. Ça fait partie un petit peu comme la raison d'être de quelque chose qui était très instinctif au début, parce qu'on n'avait pas spécialement envie de lever des fonds, parce que le modèle s'y prête bien aussi, hein. Le premier parking qu'on a installé, avec l'argent de quelques subventions à l'époque, nous a permis d'équiper, enfin de financer le deuxième, qui nous a permis de financer le troisième. Enfin, voilà, on a fait vraiment la chose petit à petit, en bootstrappant, comme on dit. Donc assez instinctif au début. On s'est dit en 2022, un peu avant, on a envie d'accélérer, d'aller plus loin, on sent bien les choses, levons des fonds. Donc on n'avait pas spécifiquement besoin d'un point de vue cash, mais on voulait accélérer. Et là, on se rend compte, en ayant levé des fonds, de tout ce que ça apporte, mais aussi de ce que ça n'apporte pas, voire des risques qui sont associés, dans un contexte en plus économique qui a changé depuis un an et demi. Et là, maintenant, c'est plus seulement de l'instinct de se dire on veut faire une boîte rentable et on est fier d'avoir fait une boîte rentable. C'est quelque chose que l'on appréhende, que l'on comprend beaucoup mieux et ça fait partie vraiment des piliers fondamentaux. Il y a trois piliers fondamentaux dans la boîte. C'est l'humain, les valeurs humaines, l'impact, avoir cet impact positif pour la ville et la rentabilité. Toutes les décisions stratégiques qu'on prend sont prises à l'aune de ces trois piliers.
Là où certaines boîtes ont dû revoir drastiquement leur copie, vu la conjoncture, vous avez poursuivi la route, comme prévu?
Ouais,
Ouais.
ça les à la fois la crise économique, on va dire, et le Covid aussi juste avant, ont pas fondamentalement changé notre direction. On est aussi sur une boîte qui a des trajectoires de croissance qui est plus faible que certaines boîtes du Next 40, par exemple, qui ont des trajectoires vraiment explosives. C'est pas qui on est, et ça correspond pas à notre marché et à notre métier.
Et ça n'empêche pas d'être un ex-40.
Et ça n'empêche pas d'être une expérience.
Tu disais, lever des fonds, il y a ce que ça permet, qui paraît relativement évident, il y a ce que ça ne permet pas, je veux bien que tu développes, et il y a ce que ça empêche, t'as dit?
Bah, il y a des
Parce
risques
que, oui.
associés, hein, très clairement. Le risque, c'est de se mettre dans une trajectoire qui est pas tenable financièrement et progressivement de prendre une direction, la direction du mur, et en plus d'appuyer sur l'accélérateur. Donc ça, c'est quand même un vrai gros risque, très clairement. Ce que ça permet pas, mais on parlait des collaborateurs. Je ne pense pas que ça permette de les attirer ou de les fidéliser. Alors peut-être momentanément, lors de la levée de fonds, il y a quand même une euphorie qui était très agréable et qui était saine, et qui était très bonne à prendre de ce point de vue-là. Mais in fine, ce qui fait que les gens viennent et restent, c'est à nouveau l'équipe, pas que les managers et les dirigeants d'ailleurs, c'est l'équipe au sens large, c'est le pourquoi je bosse. Et c'est pas est-ce que j'ai de lever des fonds ou pas. Lever des fonds, c'est qu'un moyen pour avoir une entreprise qui est saine et qui est excitante, intéressante pour les collaborateurs. On peut très bien y arriver sans lever des fonds.
Il y a un petit ego trip au moment où tu annonces la levée de fonds, tu vois tous les likes sur LinkedIn, peut-être les emails, les mails, le téléphone qui sonne.
Ouais, clairement, ça fait partie à la fois des choses avec lesquelles je suis pas très à l'aise d'un
Ouais.
point de vue caractère, même si c'est sur d'autres aspects très agréable. Et aussi des risques, je trouve, parce qu'on est effectivement très sollicité, on se prend un peu pour le roi du monde pendant quelques temps. Et les risques que je vois, c'est que pour le coup, la réussite d'entreprise est souvent mesurée à l'aune de la taille de leur levée de fonds. Et je trouve, alors parce que c'est un critère qui est, voilà,
Qui est
il y a
chiffré,
millions d'euros,
mesurable, et du
donc
coup,
ça,
ouais.
c'est clinquant, ça sonne bien, c'est mesurable. Il y a une logique aussi derrière ça, évidemment. Mais c'est hyper dangereux parce que c'est un peu comme si on dit voilà, cette personne est vachement sympa, elle dépense beaucoup d'argent, parce que c'est ça ce que ça veut dire, lever des fonds, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent après, elle dépense beaucoup d'argent tous les mois, elle achète plein de choses. Bah, c'est pas forcément ça qui va faire qu'une personne va être sympa si j'essaie de faire cette analogie.
Ouais.
Voilà, donc ça, il y a quand même ce risque-là, ouais.
Il y a, alors, si on continue l'analogie, pardon, pro-perso, boîte et dirigeant, c'est évidemment pas de l'argent qu'on prend en perso, mais les gagnants du loto, il y en a certains qui vrillent, qui font parfois des dépenses inconsidérées. Vous êtes posé la question de prendre le temps de dépenser ces fonds, et en même temps, il faut bien les dépenser parce qu'on les a pas encaissés pour rien.
Ouais, mais c'est difficile, ça, à nouveau, de trouver l'équilibre entre si je lève de l'argent, c'est pour le dépenser. Si je le dépense dans 10 ans, ce serait financièrement absurde. Il valait mieux découper la levée en deux, par exemple. Et en même temps, si je fais les choses trop vite, je risque de brûler des étapes et de le dépenser à mauvais escient. Je ne sais pas si on avait le bon équilibre. On a eu le bon équilibre.
T'as fait des erreurs?
Ouais, je pense qu'on a fait des erreurs à nouveau sur les bornes de recharge. Je pense qu'on a, quand je disais, on a mis un peu trop le paquet commercialement, c'est qu'on en a probablement installé beaucoup, un peu trop vite. et parfois pas de manière complètement calibrée. Donc,
pas au bon endroit.
Typiquement, pas au bon endroit, pas dans les bons parkings, c'est des erreurs qu'on a commises, qu'on n'aurait évidemment pas commises si on avait pris beaucoup plus de temps. Bon, ceci dit, la vitesse sur ces sujets est aussi intéressante et ça permet aussi d'avancer et d'y aller. Donc.
Et puis de se forger une opinion à partir de données voilà. réelles et pas juste de l'intuition.
Exactement, et de ne pas rester figé dans l'immobilisme. Donc c'est très difficile de savoir quelle est la bonne, quelle était la bonne solution. Il n'y en a peut-être pas une bonne, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, il y a cette recherche de l'équilibre. Ouais.
Sur cette stratégie des bandes de recharge, on pourrait imaginer que vous allez chercher des places de parking. Il y a déjà des bandes de recharge. On avait reçu ici The Plug. Je ne sais pas si vous bossez avec eux ou si vous avez d'ailleurs développé vos propres bandes de recharge. Tu pourras répondre. Mais sur la stratégie, c'est-à-dire que c'est un investissement que vous faites en posant des bandes de recharge avant d'avoir la demande.
Oui, tout à fait. Donc, ce qui est une sorte de pari. Alors, on essaie de
vous auriez
faire pu
attendre d'avoir
mieux.
La demande. Et je ne sais pas combien de temps ça prend pour installer, mais si ça prend une semaine, tu peux attendre d'avoir un go et un client
ouais.
en face.
Alors, malheureusement, ça prend plutôt 6-9 mois qu'une semaine.
Okay. Donc si tu l'aimais pas, il y a pas.
Donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui la veulent pour tout de suite. On vit dans un monde qui fonctionne comme ça. Donc on pourrait avoir cette posture-là, qui serait une posture finalement beaucoup moins risquée, mais effectivement beaucoup moins volontariste aussi.
Ouais. Et puis pour transformer, tu peux attendre
avec un taux de transfo
moment,
qui est compliqué, sauf sur des projets un peu plus importants ou je sais pas, une entreprise a besoin d'installer des bornes pour.
Et ça, elle le projette,
etc.
elle le sait,
voilà.
effectivement.
Et elle s'y prend pas une semaine avant. Mais sinon voilà, c'est une approche qui est quand même assez différente et typiquement tu parlais d'erreur, une autre erreur, et tu mentionnais The Plug, c'est intéressant, une autre erreur qu'on a commise, c'est qu'on s'est dit il y a quand même quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer demain, tous les véhicules ont changé de motorisation, toutes les places de parking devront avoir une borne, c'est quand même génial, les places de, enfin, en plus ça met le parking au centre, pas uniquement de la transformation de la ville, mais aussi au centre de la mobilité.
Et de la réduction des énergies fossiles.
Exactement, donc il y a un impact qui est fort. Le parking devient station-service, bref, c'est assez magique. Et on s'est dit, globalement, ça marche bien. Alors, même s'il y avait des petits calibrages, mais globalement, ça marche bien. Et tant qu'on installe des bornes dans un parking, on pourrait aussi devenir, nous, opérateurs, ce qui est en fait le métier d'un The Plug ou d'une boîte. Et donc, on a exploré ce sujet-là, que finalement, on l'a refermé après coup, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas notre métier. Mais typiquement, ça, c'est une erreur que... la volonté de vitesse et l'excitation nous ont en partie poussé à commettre, c'est pas que ça, hein, il y avait aussi plein de sous-jacents stratégiques qui étaient pertinents. Mais voilà, on a fait aussi des erreurs stratégiques à ce niveau-là.
Et du coup, ces recharges, vous les faites, ces bornes, pardon, vous les faites avec quelqu'un ?
On les fait installer par des installateurs ou par des opérateurs du marché. Voilà, on considère que c'est pas notre métier. Nous, notre métier, c'est de sourcer les places, sourcer la demande et de faire en sorte que les deux matchent. Donc typiquement, s'il y a une voiture électrique, il faut que la place matche, c'est là où on a un rôle à jouer, mais on n'est pas l'opérateur d'abord au sens technique du terme.
Et du coup, vous décalez l'investissement côté opérateur
Alors ça, c'est des discussions qu'on a avec eux. Idéalement, oui. Eux aimeraient le décaler aussi chez nous, bien entendu.
Tu évoquais il y a quelques instants la levée de fonds, on l'évoquait tous les deux. On a une question de notre partenaire Madines pour toi, en la personne d'Étienne Portet, un des deux cofondateurs.
Vous avez un message.
Bonjour Thibaut, c'est Étienne de Madines. Bravo pour l'aventurier Spark, je suis un grand fan. Ma question la voici, tu as réussi à lever 28 millions d'euros il y a presque 2 ans. Depuis, les choses elles évoluent très très rapidement dans le secteur de la mobilité, et notamment à Paris. Mais je serais très curieux d'en savoir un peu plus sur les autres villes de France et aussi le comparatif que tu pourrais faire avec nos voisins européens. Merci beaucoup.
Paris n'est pas une exception. Les grandes tendances que je vois à Paris sont la tendance à supprimer les places de parking en voirie pour favoriser le stationnement souterrain, la tendance à petit à petit limiter les voitures des villes ou des centres-villes, et le développement d'autres types de mobilité, le vélo en est un très bon exemple. C'est vrai à Paris, les personnes qui habitent ou qui travaillent le vivent au quotidien, c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres villes. On est implanté dans 700 communes en France, donc on sent bien ça. C'est vrai à Lyon, c'est vrai à Nantes. On a connu aux dernières municipales une vague de maires écologistes, donc ça accélère aussi dans ce sens-là. Donc c'est vrai en France, c'est vrai aussi dans les autres pays européens. Nous, on a une connaissance un peu poussée aux Pays-Bas et en Italie de par le fait qu'on est présent. Aux Pays-Bas, c'est évidemment quelque chose qui est très axé. Si on pense au vélo, ils sont d'ailleurs bien en avance sur nous. Je sais qu'en Belgique, c'est aussi un des objectifs de la ville de Bruxelles est de réduire le nombre de places de stationnement en voirie. Alors on peut penser à Londres et au péage qu'il y a pour accéder au cœur de la ville. Donc c'est vraiment voilà, trois tendances qui je trouve, enfin, en tout cas dans les exemples que j'ai, se retrouvent. Et c'est plutôt bien pour le business, ça veut dire qu'on a quelque chose de relativement réplicable d'une ville à l'autre.
Et alors justement, le projet de déploiement YesPark en Europe, ça donne quoi?
C'est extrêmement intéressant. Et pour parler sans langue de bois, c'est assez mitigé dans le sens où il y a du bien, il y a du moins bien. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on arrive à le faire. Aux Pays-Bas, ça tourne. En Italie, ça tourne. C'est quand même, y a pas beaucoup de boîtes qui savent avoir des opérations dans plusieurs pays. Et ça, c'est extrêmement bien. On voit aussi quand je dis on arrive à le faire, c'est d'un point de vue opérationnel, mais on voit qu'il y a de l'offre. Il y a des parkings qui sont vides. On voit qu'il y a de la demande. Il y a des utilisateurs, des automobilistes qui cherchent à se garer. Ça aussi, c'est super. Le un peu moins bien, c'est qu'on se rend compte que quand même, on est sur un marché qui est assez local. Il faut discuter avec le propriétaire de parking. Ce propriétaire, il est parisien, si je pense à Paris. Il est éventuellement français, national. Il y a des bailleurs qui ont une empreinte nationale. Les propriétaires sont rarement internationaux. C'est un petit peu vrai dans l'immobilier de bureau. Il y a des banques qui ont des immeubles dans plusieurs capitales européennes ou plusieurs grandes villes européennes, mais c'est globalement pas la norme.
Et s'impose quoi cette dimension locale?
Bah, ça veut dire qu'il faut ce travail de fourmi, d'aller chercher les places une par une dont je parlais au début. Bah, il faut le faire dans chaque pays et dans chaque ville. D'ailleurs, c'est pas qu'une question de pays, c'est plutôt une question de ville en fait.
Donc quand tu ouvres une ville, tu as une équipe sur place.
Alors, on a une équipe dans le pays et pas sur place. Eux, on fait quand même beaucoup de ventes à distance, ils se déplacent un petit peu. Elle est dans le pays plutôt pour des questions de culture, de facilité, plutôt des questions RH, moins pour des questions opérationnelles et commerciales. Pour le coup, les équipes d'opération sont centralisées en France. Donc, il faut quand même avoir cette démarche très locale. Le marché est très local. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on se focalise énormément sur le marché français. On met le développement international, que ce soit aux Pays-Bas, ça fait déjà quelques temps, ou en Italie, en pause. Alors, les parkings continuent à tourner, on continue à avoir des opérations, mais
C'est
on n'a
qu'il n'y a
plus de
plus
démarche commerciale.
d'investissement.
Exactement. Et on concentre l'investissement sur le marché français pour être, enfin, conforter notre place de leader sur ce marché et accepter qu'on n'est pas les meilleurs en Italie, même si les affaires continuent de tourner.
Tu dis leader, c'est-à-dire qu'il y a des concurrents. C'est quoi le paysage concurrentiel déjà en France?
On a trois sociétés, dont nous, qui exerçons ce métier de parking partagé, de valorisation des parkings initialement vacants. Globalement, les différences se font surtout en matière d'usage, que sont faites ces places de parking. Nous, on est très fort, très focalisé sur de la location longue durée. Je vais louer une place près de chez moi pour un mois ou plus. On a une autre société française qui va plutôt être focalisée sur des stationnements de quelques heures ou quelques jours. Et une autre société qui va être très focalisée voyage proche des gares et des aéroports. Donc chacun a trouvé quand même son positionnement en matière d'usage. Et ça fait aussi que les propriétaires de parking sont un petit peu différents parce que près des hôtels, typiquement, près des aéroports, on va avoir plus d'hôtels. Dans les zones résidentielles comme les nôtres, on a plutôt des bailleurs résidentiels. Donc ça a aussi cet impact en matière de propriétaires.
Vous parlez entre concurrents?
On se parle, ouais, on essaie de maintenir des canaux de communication ouverts et de se donner
Bah,
des
c'est un
nouvelles.
téléphone rouge.
Ouais, il y a le téléphone rouge en cas de besoin, mais sinon, c'est de se voir une fois par an à peu près pour se donner des nouvelles, savoir à peu près où on va. Alors, c'est toujours un petit peu un exercice un peu délicat parce qu'on a envie d'en savoir sans trop d'en dire, mais pas trop non plus. Enfin, voilà, mais je pense que c'est important et je suis assez convaincu que demain, ces trois concurrents dont nous faisons partie, demain, auraient sens à travailler ensemble, très clairement. On fait le même métier, même s'il y a des différences.
On pense acquisition.
On pense acquisition, notamment. Il y a une partie de l'argent qu'on a levé qui peut être
Qui
utilisée
peut
pour
être dédié
ça.
à ça.
Ça ferait du sens. Ouais, ça ferait du sens, bien sûr.
Et on a ce format dont je te parlais avant de lancer Cash Out, où dans 80% des cas, on connaît déjà d'avant
Ouais.
ceux qui nous ont rachetés ou ceux qu'on va racheter. D'où l'intérêt aussi d'aller faire un tour, de se parler, d'entretenir le lien. À date, il n'y a pas eu d'acquisition.
Non, alors si une petite société bordelaise, à l'époque, c'était il y a déjà plusieurs années, qui s'appelait Parking Facile, qui faisait le même métier que nous sur une échelle plus petite qu'on a acheté, Bon, c'est relativement mineur en termes de montant et de difficultés d'intégration, mais on peut dire qu'on l'a déjà fait une fois.
Si ça s'est bien passé,
et ça s'est bien
facile,
passé,
ouais.
Ouais.
Pas toujours simple de
Non,
racheter une
non,
boîte.
non. Voilà, je pense que j'ai le sentiment, sans connaître le sujet de très près, que plus l'entreprise est petite par rapport à l'acheteur, plus l'intégration est facile. Là, il y avait effectivement un bel écart de taille, donc c'était relativement simple.
Je sais pas si tu connais Wilfried Granier de Superprof qu'on avait reçu avec Olivier à ce micro il y a quelques semaines, mois. Lui rachète boîte sur boîte et son seul point d'entrée, son seul critère pour acheter une boîte, c'est les bases de données. Si demain vous devez faire une acquisition, vous allez chercher quoi? Les places de parking, une marque potentiellement, une ouverture sur certaines villes ou sur certaines zones, c'est quoi la reprise idéale?
Bah, d'abord les places de parking. Il y
Ouais.
aura plein d'autres avantages évidemment, mais c'est d'abord les places de parking. À nouveau, on est sur un métier où la denrée rare est l'offre. C'est une offre qui est limitée physiquement, hein, pour de vrai. Donc c'est la première chose qu'on va regarder. Ouais.
Si on parle du secteur, et de votre métier, c'est quoi les menaces auxquelles vous faites face qui pourraient mettre un coup d'arrêt, à la trajectoire que vous avez aujourd'hui?
Bah, on est assez soumis assez lié au destin des villes. Pour l'instant, on est plutôt dans un contexte qui est bon depuis 10 ans, je pense au moins pour les 10 prochaines années, comme je le disais, de diminution des places en voirie, donc d'augmentation de la pression en stationnement, c'est-à-dire que les prix augmentent, c'est-à-dire que les places sont de plus en plus rares, de plus en plus demandées. Donc globalement, le contexte est bon. On pourrait se projeter et se dire, bah, peut-être, oui, certes, à moyen terme, c'est bien, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en fait, il n'y aura plus de voitures, tous les centres-villes seront piétons. Les quelques voitures qu'il y aura seront opérées par Uber et Google, donc il n'y aura plus besoin de parking, elles tourneront 24 heures sur 24 parce qu'elles seront autonomes. Quelle est la place de Yaspark dans tout ça? Donc là, potentiellement, on voit une menace, alors on essaie de l'anticiper au mieux. Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité, et c'est pour ça notamment qu'on travaille sur deux axes principaux. Un axe qui sont les nouvelles mobilités. Quelles solutions mes parkings vont permettre d'apporter à des utilisateurs de vélos, de trottinettes, de véhicules électriques, par exemple? Des nouvelles mobilités et aussi la relation avec les pros. Demain, quand Google va opérer toutes les voitures qui circuleront en France, ben moi je vais être le partenaire de Google pour être sa base arrière, pour effectivement charger ses véhicules, les nettoyer, faire des réparations, absorber des creux de demande, etc.
Aller jusque-là. Et bosser sur les périphéries des villes, c'est une réflexion.
Ben, y a deux enjeux. Il y a un enjeu de stationnement assez classique, et il y a un autre enjeu, c'est un enjeu de parking relais, on appelle ça, hein. J'arrive dans une grande ville, je laisse ma voiture aux portes de cette ville. Là, clairement, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas aujourd'hui très implanté. Je pense que la France, en général, est pas extrêmement, fait pas partie des meilleurs élèves en Europe, en tout cas pas de ce que je connais sur ce volet-là. C'est un axe de travail, très clairement. Dans le dessin des villes de demain, les véhicules s'arrêteront aux portes des villes à nouveau, hein, dans 10, 20, 30 ans. Et donc, il faudra être capable d'absorber cette demande et de gérer le flux.
Tu le disais, votre destin est intimement lié à celui des villes et donc aussi aux politiques qui y sont menées. Est-ce que votre sujet est pleinement apolitique ou en fonction des couleurs des partis, il y a plus ou moins d'opportunités ou au contraire de menaces?
Bah oui, on est soumis aux directions stratégiques des villes et donc à la couleur politique de ses dirigeants. À nouveau, hein, c'est pour caricaturer, c'est est-ce que je suis pro-voiture ou anti-voiture? Étonnamment, pour une boîte des voitures, on aime plutôt bien les dirigeants anti-voiture parce que bah, ça facilite un petit peu le business. Bon, globalement, comme je le disais, je sens quand même que quelle que soit la couleur politique du dirigeant, c'est une trajectoire qui est adoptée par toutes les communes en France, ou presque. Donc ça change pas non plus fondamentalement la tendance.
Une vie est faite de 1 000 premières fois. C'est la même chose pour les dirigeants. Je te propose de répondre à toutes mes questions en mode question rapide, réponse en partie rapide. Premier renoncement.
Je pense à ce renoncement dont on a parlé tout à l'heure de plus faire des choses, au sens fabriquer des choses, mais de penser des choses et de discuter de ces choses avec des gens qui les feront.
J'ai dit première, mais on peut aussi faire les dernières. La dernière nuit blanche.
Bah, cette nuit, mon fils est
Ouais,
malade.
c'est perso, là.
Ouais, c'est perso. Ouais.
Premier travestissement entre ce que tu veux être et ce que
J'ai en tête une photo qui me revient d'un concours de pitch, mais on était vraiment au tout début de la boîte, où je suis vraiment pas à son avantage, et c'est cette image qui me revient quand tu me poses cette question, où là j'étais vraiment en difficulté. C'était vraiment adopter la peau d'un autre.
Pour l'exercice ou pour le contenu même de ce qu'il fallait dire et ce que tu pensais qu'il fallait montrer?
Non, plutôt pour l'exercice et la posture. Donc là, voilà, j'avais vraiment mis mon costume de porte-parole, on va dire, d'homme de presse presque, et ce qui est un costume avec lequel je suis moins à l'aise instinctivement.
Vous avez lancé en 2014, à l'époque, je me rappelle, les pitchs étaient assez disparates, il y avait vraiment de tout. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont quand même relativement plus normés. T'as appris à pitcher, tu t'es pareil inspiré, un peu comme pour l'UX, d'autres pitchs, pour raconter l'aventurier Spark.
Je pense que je suis toujours assez perfectible en matière de pitch, on va dire. Et on s'est inspiré, ouais, pour le coup, on a suivi un cours de communication pour essayer de structurer les discours, et ça va du pitch de 1 minute à un speech de 1 heure.
Dernier doute.
Bah, typiquement, on parlait des places pour les vélos tout à l'heure. C'est pas évident parce qu'on sent qu'il y a un enjeu pour la ville de demain qui est fort. Simplement, on voit aussi que d'un point de vue rentabilité, on n'est pas là. Et à mon sens, aucun acteur n'a trouvé la rentabilité sur ce créneau, que ce soit des startups ou des institutionnels du stationnement. Donc ça pose quand même pas mal de questions, surtout quand je dis tout à l'heure, on a 3 piliers qui sont indissociables, qui sont les valeurs humaines, l'impact
et la rentabilité.
Et là, on voit qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas encore à réconcilier.
Qui peut l'être, selon toi?
Je pense qu'il peut l'être. Et après, on essaie de faire les choses rationnellement, de manière assez raisonnée. Mais il y a encore du travail pour le faire, voilà, pour trouver l'équation parfaite.
Premier rituel.
C'est un rituel qu'on a depuis presque le premier jour de la boîte. Ça s'appelle le bœuf. C'est le mercredi midi, c'est toutes les semaines. Toute la boîte se réunit. Alors, au début, c'était 3 personnes, maintenant c'est 80. Et chacun présente ses avancées. C'est libre, c'est pas coordonné, c'est pas prévu. Chacun parle de ce qu'il veut parler pour que l'information circule bien dans la boîte.
T'appelles ça le bœuf?
Le bœuf, ouais. Alors moi, je suis pas musicien,
musical,
mais
ouais.
Exactement. Ça vient de ce concept
quelque
de jazz,
chose un peu
d'improvisation.
Improvisé,
exactement.
Et on peut avoir 80 personnes qui prennent la parole à tour de rôle.
Alors maintenant, on time quand même. C'est 1 heure max.
Ça peut être long.
Donc chacun le fait un peu au feeling, mais
ça prend à pitcher, à être concis.
Voilà.
Hein.
Mais on dit pas c'est max X slide ou attends, il y a déjà trop de monde. Il y a personne qui centralise ce sujet-là. Chacun est intelligent pour que ça marche bien, et ça marche toujours bien, et c'est quelque chose qui est très fort dans l'ADN de la boîte.
Alors je tire le fil, dernier apprentissage qui remonte d'un de ces bœufs.
Alors c'est marrant parce que en tant que dirigeant, parfois on peut avoir l'image que la pensée que en fait je sais tout, mais c'est pas vrai, je sais pas tout, de moins en moins de choses de ce qui se passe dans la boîte.
D'où l'importance de travailler ces rituels-là.
Exactement, ouais. Et moi aussi j'apprends des choses très opérationnelles, en l'occurrence, c'était, alors je savais que ça se faisait, mais je savais pas quand c'était live, la réorganisation d'une partie de l'équipe. Là ça me permet de savoir que ça y est, c'est officiel et la chose est validée. Donc je l'ai su par ce canal, on va dire officiel, j'avais pas le go final avant.
Tu parlais d'officiel, on va rien faire de plus officiel que ce qui suit.
Parce que c'est notre projet.
Je précise qu'on tourne un jour après la grande allocution devant la presse du président, c'était 2h15, donc on va faire un peu plus court et je vais te demander de te focaliser sur une promesse de campagne.
Moi, président, je vais supprimer la publicité sur des écrans télé de France, notamment dans les transports en commun.
Oui, pas à la télé.
Pas à la télé, non, c'est l'étape d'après, mais là je pense que ce serait peut-être un peu trop ambitieux comme programme. Non, moi, je prends beaucoup le métro et c'est quelque chose qui... à titre personnel, me fait mal au crâne. Quand on a 10 écrans de chaque côté qui en plus projettent la même image, honnêtement, je ne sais pas comment on peut... Enfin, moi, je n'y arrive pas. J'ai vraiment l'impression, en plus, qu'on me prend pour quelqu'un de pas extrêmement intelligent, pour être poli. Je trouve ça extrêmement abrutissant.
C'est le problème du support ou le problème des communicants?
C'est une bonne question. Les deux bossent ensemble, malheureusement, mais... Le support fait qu'on a des formats qui sont très, très agressifs, très percutants. Enfin, c'est aussi pour ça que ça marche et que c'est utilisé. Hein. Mais je trouve ça abrutissant. Moi, ça me pose question, même si c'est évidemment un détail, mais quand on parle de transition écologique, d'avoir des télés allumées toute la journée, pleine balle, ça me gêne. Et de surcroît, alors ça, c'est une conviction très personnelle. Je suis pas économiste et je suis sûr qu'il y a des gens qui me contrediront et qui connaîtront mieux le sujet. Mais j'ai tendance à croire qu'on est dans un pays riche, développé. Et qu'au bout d'un moment, quand on augmente le PIB et la richesse d'un pays, ben, on fait croître le bonheur collectif ou de chaque individu jusqu'à un certain point où tous les désagréments que ça cause font que le bonheur collectif va redescendre. Et quand on parle de transition écologique et qu'on voit les problèmes que ça pose et les morts, on ne parle pas des morts, mais en fait, il y a des morts derrière qu'on a du mal à quantifier, etc. Mais il y a des gens qui meurent pour ça. Ben là, je pense qu'on a dépassé ce point-là de richesse et qu'on pourrait vivre dans un pays un peu moins riche et être un peu plus heureux. Et là, j'ai l'impression que ces écrans nous poussent à aller encore plus loin vers plus de consommation, plus de richesse, et en fait, ne rendent pas in fine les gens heureux, mais ont plutôt tendance à les rendre malheureux, et ça complètement à leur insu. Évidemment, quand j'achète un produit suite à cette pub, j'ai génial sur le coup, je suis content, quoi.
Et on va voir à quel point tu es heureux, à quel point tu travailles à ton bonheur tout de suite.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, parle de vous.
Thibaut, tu peux t'allonger, c'est le moment perso, presque un peu psy. Je vais commencer par cette question. Qu'est-ce qui te rend heureux ?
Il y a plein de choses. Il y a deux choses qui me rendent... trois choses qui me rendent fondamentalement heureux, mais c'est un espèce de... C'est assez indescriptible. Il y a une première chose, c'est quand je rentre le soir et que mon fils, qui a 3 ans, me saute dans les bras en disant « Papa !» Et ça, c'est génial. Oui, on fait pas mieux. L'autre chose, alors c'est très lié à mes enfants, c'est quand on dessine, on fait des coloriages et qu'on... Moi, j'aime bien concevoir des choses et qu'on dit « Ah tiens, viens, on va fabriquer une fusée. » Alors, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans la maison. Donc, on prend un tube de Béroca, ouais. Comment ça s'appelle, pas les protéines, les vitamines. Et puis, qu'on fabrique une fusée comme ça. Et quand je vois mon fils après...
Pardon, alors là, c'est mon côté pas ingénieur, ouais. Mais t'arrives à faire une fusée qui s'envole avec
ça? Elle s'envole pas, non.
Non, tu fais... Après, c'est papa qui porte la fusée. Il faut... sais pas. Hein,
Mais ça
je t'aurais demandé un tuto do it yourself.
Et je vois mon fils qui, après, se fait des délires tout seul en disant « Ouais, je vais construire ça. » Alors, il ramasse des trucs. Et construit... L'autre jour, il a construit un piège à guêpes. Je sais pas où il a vu ça. Il a dit, je mets de la colle sur la feuille, comme ça la guêpe, quand elle va venir, bon, il a fait son piège à guêpe. Et je trouve ça génial.
Il a tiré une guêpe
Ait cette idée, ce concept. Ouais. Alors, j'imagine qu'il l'a vu quelque part, mais je trouve ça...
C'est pas le sujet, ouais.
Je trouve ça fou, quoi.
L'idée de lui donner entre les mains, ou dans la tête plutôt, qu'il va pouvoir, en mélangeant des choses, fabriquer...
Ouais, et concevoir avec ce qu'il trouve sous la main. J'aime bien ce côté... Ouais, un peu réutilisation du tube de Béroca vide qui allait finir la poubelle. Ça me fait marrer. Je trouve que c'est assez une dimension créative que je trouve intéressante.
Troisième point, ouais.
J'adore faire du vélo. Alors, j'en fais malheureusement pas assez à mon goût, parce que les journées sont bien chargées. Mais quand, à nouveau, j'en fais avec mon fils et qu'on s'arrête et qu'on va se promener, etc., c'est assez génial. J'ai une fille qui a 7 mois, donc j'ai hâte que je puisse la prendre. Elle est encore un tout petit peu petite. Mais ça va être génial.
3 ans et 7 mois.
Ouais.
Ça a eu un impact dans ta gestion quotidienne de la boîte?
Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, un impact fort même, faut pas le nier. Je sais pas à quel point ça se ressent in fine, je pense pas trop, mais en tout cas moi, à titre personnel, clairement, ma priorité pendant quasiment 7 ans a été la boîte. Depuis 3 ans, ça n'est plus la boîte. C'est quelque chose, alors, ça veut pas dire que je suis désinvesti, mais... Ouais. Dans ces tripes, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est quelque chose qui est...
Des priorités.
Assez fondamental, que j'ai eu un peu de mal à assumer, parce qu'on...
Vis-à-vis quoi? Des associés, des collaborateurs, des investisseurs?
Exactement, ouais, des associés surtout. Et ouais. Tu te dis, en fait, à quel point je suis en train de les trahir, en leur disant, désolé, la boîte n'est plus ma priorité, tu n'es plus ma priorité. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas évident, je trouve... En tout cas, moi, j'ai mis un petit peu de temps pour être à l'aise avec cela.
Et tu l'as verbalisé?
Je pense que ça s'est fait petit à petit. Et j'inciterais, enfin, si je devais le refaire, j'essaierais de le verbaliser plus vite, plus tôt. Pour justement que ce soit très clair et qu'il n'y ait pas de malaise, c'est parfois un peu difficile. Et l'autre grand changement, c'est dans ma gestion de mon emploi du temps, et ça j'ai toujours beaucoup de mal à faire, c'est que ça demande beaucoup de souplesse, parce que le numéro 1 est malade ou le numéro 2 est malade et ça change. Et ça, c'est, voilà, sur l'agenda, je ne suis pas extrêmement souple.
Et c'est pas toujours à la maman
Et
d'aller
c'est pas toujours
récupérer l'enfant quand il est malade.
Ouais, même si elle en fait beaucoup, il faut, voilà, j'ai envie aussi de faire ma
Mettre ta
part.
part, ouais.
Ouais. Et ça, ouais, c'est je pense qu'il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Moi, c'est pas mon cas.
J'ai le souvenir d'un entrepreneur qui avait gagné le prix de l'entrepreneur de l'année EY, que j'avais eu en off, et avant de lancer l'interview, je lui ai demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes? Je crois que c'est 1 milliard de chiffres. Bref, il avait a priori tous les chiffres pour dire qu'il avait réussi. Et alors, il ne me l'a pas dit au final au micro, mais off, il m'a dit, j'étais pas à 500 millions près. Je suis séparé de ma femme, mes enfants ne me parlent plus. Et entre l'ambition qu'on a pour la boîte et souvent qui dépasse, hein, tu t'as parlé d'une raison d'être qui dépasse simplement ce que vous faites dans la boîte, le quotidien, le personnel, la famille, et tu parlais d'équilibre tout à l'heure, c'est pas simple.
Non, c'est pas simple. Non, non, c'est clairement pas simple. On est tiraillé. Enfin, moi, je sais que je suis tiraillé entre être un bon chef d'entreprise, être un bon papa, être un bon mari, un bon époux,
Un bon pote,
un bon pote, un bon membre de la
fils,
famille, un bon fils. Et c'est dur. Et j'ai pris conscience de ça lors de la naissance, enfin, un peu avant la naissance de mon premier enfant, de cette exigence envers moi-même que j'avais. Hein, c'est moi qui me mets cette pression, on va dire, d'être bon sur tous les plans.
c'est être ambitieux pour tout, en fait.
Ouais, il y a cette dimension-là, ce qui est assez, enfin, ça a des avantages, mais c'est quand même assez risqué comme mindset, comme programmation fondamentale, parce que le risque, c'est de jamais se satisfaire, de chercher toujours plus, et du coup de se perdre, et d'oublier parfois des fondamentaux qui sont importants.
Et alors, ça a été quoi ta réponse à toi?
Bah, j'essaye de diminuer le niveau d'ambition, d'accepter le fait que bah, des fois on n'est pas le meilleur papa, mais que je suis déjà un très bon papa, ou le meilleur chef d'entreprise, mais que j'espère être un bon chef d'entreprise, voilà, d'essayer de raisonner un peu tout ça et d'accepter que parfois on est un peu meilleur sur une composante et un peu moins bon sur l'autre, et puis que tout ça évolue et que dans le temps ça s'équilibre quand même.
C'est, je crois, quasiment mot pour mot ce que nous disait Paulin Pascot, je sais pas si tu le connais, le patron d'Agriconomie, à ce micro il y a 2, 3 semaines, sur cette idée, bah, je vais être le meilleur là pendant 3 mois, puis en fait ensuite je serai le meilleur là pendant 2 mois, et qu'à la fin, globalement, ça s'équilibre et qu'il faut pas trop se fouetter.
Ouais.
Tu parlais du vélo. Est-ce qu'il y a d'autres composantes qui t'amènent à respirer, à prendre du recul, sur ta vie, tes choix, tes décisions?
J'aime bien la forêt. J'y vais peu, mais j'aime m'y promener. J'aime la montagne. Ça, c'est des environnements qui
La nature.
de la nature qui m'apaise, et je trouve qu'il offre un cadre en plus qui est agréable en famille. Ça crée un cadre qui est très agréable et très apaisant. Ouais.
Que tu vas chercher du coup plus régulièrement que la moyenne.
J'aimerais plus le chercher, enfin plus le trouver. Je sais pas si je suis en dessous ou au-dessus de la moyenne. Vivant à Paris, la forêt est quand même assez loin. Le vélo est pas toujours agréable, il faut aller un peu plus loin aussi. La montagne, on y accède, mais c'est pas non plus un jet de pierre. Bon, je suis loin d'être malheureux, hein, mais si je pouvais l'avoir un tout petit peu plus souvent, clairement, ce serait bien.
Dans cette composante projet de vie, besoins fondamentaux versus j'ai une boîte à gérer, peut-être qu'elle est plus facile à gérer depuis Paris, c'est un tiraillement.
On a pris la décision avec ma femme de déménager. On va déménager l'année prochaine à Mâcon, qui est le bon
T'as
compromis
dû voir dans
entre.
mes yeux, alors Mâcon, où est-ce que c'est déjà?
Mâcon, c'est en Bourgogne, c'est un peu au
Merci,
nord de Lyon.
merci.
Ça a l'énorme avantage d'être à 1h32 de TGV de Paris, pas très loin de la Savoie d'où vient ma femme. Donc c'était bon compromis géographique, c'est aussi une très belle région. Et donc ça va, voilà, c'est un choix assez fort. On va voir à quel point gérer la boîte va être facile ou pas. Bon, je vais revenir au moins 2 jours par semaine à Paris. Donc je ne vais pas être beaucoup moins présent au bureau que je ne suis aujourd'hui, parce qu'en fait je suis beaucoup en rendez-vous, beaucoup à l'extérieur. Ça va me donner l'opportunité aussi d'être parfois au calme pour bosser sur des sujets de fond. Voilà, il va falloir trouver le bon réglage.
Là aussi, déménager, c'est une discussion pas facile avec les associés, en tout cas dans la tête, avant d'y aller, de le partager.
Ouais. Discussion hyper fondamentale. Je forme un couple avec ma femme, je forme aussi un couple en quelque sorte avec
Bien
mes
sûr.
Associés. Hyper fondamentale. Pas forcément toujours facile, non pas lié à la réaction de mes associés, mais en tout cas lié à moi, les questionnements que ça soulève, c'est est-ce que je vais continuer à être aussi bon, aussi investi, est-ce que c'est une forme de déloyauté ou pas, vis-à-vis de la boîte, vis-à-vis
On
des
vient à cette
collaborateurs,
notion de trahison,
des associés, à quel point je vais continuer à être exemplaire si je suis... pas tout, enfin 5 jours sur 5 par semaine, enfin au bureau.
Il y a cette idée aussi, est-ce que je vais pas perdre un peu la main?
Pas trop pour le coup.
Pas trop.
Non, pas trop. Voire pas du tout. Non, c'est plus une question d'exemplarité qui pose question.
Et inversement, la plus côté perso, se dire je quitte la famille pendant 2 jours par semaine, est-ce que ça pose d'autres questions?
Bien sûr.
Alors, toujours de cette recherche d'équilibre, j'aime bien tirer un peu le fil. Mais...
Non, mais ça va être aussi exigeant. Alors, il se trouve que je vais faire des allers-retours sur la journée, je ne vais pas dormir à Paris. Ça, c'est un choix aussi. Je ne veux pas, à titre personnel, me mettre dans cette routine de découcher un soir par semaine. Mais ça va être exigeant physiquement pour moi et de fait pour ma femme aussi, qui, sur ces 2 journées, où je vais partir très tôt, rentrer très tard, évidemment on va être sollicité donc ouais c'est aussi une grosse discussion et un équilibre qu'il va falloir trouver hein. Ça on verra un peu comment ça va se passer.
Faut le vivre pour savoir.
Voilà.
On parlait de l'inspiration, où est-ce que tu vas la chercher?
J'essaye de regarder ce qui se fait, alors c'est sur plusieurs plans hein, mais ce qui se fait on parlait de copier les meilleurs etc. J'essaie, alors je le fais pas assez à mon goût, c'est vraiment à chaque fois que je rencontre un entrepreneur. Et j'apprends tellement de choses en 30 minutes, une heure, que je me dis, mais il faut que je fasse que ça. Et puis le quotidien reprend un peu le dessus. Mais ça, c'est une énorme source d'inspiration.
C'est quoi les questions que tu poses aux autres entrepreneurs?
Franchement, ça dépend du contexte. Là, on travaille justement sur l'impact et la raison d'être. Donc, mes discussions sont orientées là-dessus. Après, je suis aussi à l'écoute de eux, ces problématiques, et on apprend toujours. Et il y a toujours des connexions, des liens qui se font. C'est assez magique, c'est une mine de savoir et de capacité à prendre du recul sur ce que l'on vit qui est prodigieuse.
Tu t'obliges à travailler ce réseau et ces discussions d'entrepreneurs, je sais pas, X fois par semaine ou par mois?
Non. Le nombre de fois où je me suis dit, allez, je vais le faire. Tous les vendredis, je contacte quelqu'un et en fait, je le fais jamais. Je pense qu'il y a une question aussi de naturel ici. Donc à chaque fois que je vois quelqu'un, je trouve ça tellement bien, tellement enrichissant. Mais j'arrive pas à me donner cette... à tenir cette routine.
Waouh! Sans transition. C'est le moment de la claque, Thibaut.
Il y a très longtemps, au tout début de la boîte, on parlait des objets connectés qu'on branche sur les portes pour ouvrir les parkings tout à l'heure. Aujourd'hui, ces objets connectés, on les achète sur étagère, ils fonctionnent bien. Au tout début, c'était un de nos collaborateurs qui s'appelait Maxime, qui les soudait. Il adorait l'électronique, donc il les soudait, il les fabriquait lui-même. On était encore hébergés à l'école des mines, dans le sous-sol de l'école, enfin, c'était vraiment les tout débuts de la boîte. Et donc on allait brancher ces objets connectés, ça marchait pas trop, ça marchait pas trop. Et un des moments les plus difficiles de la boîte était le moment où il y avait on avait un client, alors évidemment pas de service client, c'était nous.
C'était vous, hein.
Le client appelle, bon, j'ai un problème dans le parking, très bien, on envoie une équipe, et il rappelle, et en fait, tu te rends compte que tu es dans le métro, avec ton escabeau et ta caisse à outils, avec le mec au bout du fil qui commence sérieusement à s'impatienter, et tu vas revisser le truc qui marche pas, et tu te dis, mais en plus, si ça se trouve, j'ai croisé le type, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Oui, je suis le technicien qui fait aussi la relation client, qui soude les... Et ce moment-là, honnêtement, j'ai les larmes aux yeux, je voulais devenir une petite souris, me mettre dans un trou et que plus personne me voit et rester là, quoi. Ça, c'était... Alors j'en ris maintenant parce que
c'était passé,
quand même il y a très longtemps et qu'on a pu ce genre, évidemment, de problèmes, de difficultés. Mais sur le coup, c'était très, très dur, ouais.
Et c'est la vraie vie des entrepreneurs. Parfois être sur des sujets.
Il y avait de la vraie galère et du bricolage. Franchement, c'était pas pro, quoi.
Et à quel moment vous avez dit on arrête de bricoler? Quand vous avez eu les moyens?
ça s'est fait petit à petit.
Ouais.
On a senti que là, il y avait un problème sur l'ouverture des portes. On a trouvé une autre solution. On a continué à faire la relation client. Enfin, la hotline d'urgence la nuit, mais peut-être pendant, je sais pas, 5 ans, 6 ans. Donc, toutes les nuits ou presque, téléphone qui sonne. J'ai un problème. Donc, la voix ensommeillée, oui, je regarde ça. et on gère le truc et on se rendort. Pareil, alors ça a marché, hein, franchement, ça marchait très bien. Mais c'était pas pro, quoi.
Ah non, mais et pas tenable sur la durée.
Et pas tenable sur la durée, clairement pas. Non.
On a eu récemment Eric Carrel de WeThings et on a parlé beaucoup de l'importance du sommeil. Ouais. Donc t'as killé quelques mois de vie, peut-être.
Ouais, je pense, ouais, clairement. Ouais, ouais.
Ta carte blanche qui va suivre, je crois qu'elle est liée à un sujet que t'as très brièvement évoqué. On va parler des forêts.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Ouais, les forêts. Les forêts, comme je disais, je les apprécie à titre personnel. Je les trouve reposantes, apaisantes, un peu mystiques. Elles font un peu peur. On a des vraies forêts mythiques en France, la forêt de Brocéliande. Enfin, il y a une dimension à titre personnel que je trouve intrigante. Et je trouve ça beau, clairement. Un arbre, je trouve ça vraiment beau. Et une forêt, je trouve ça beau. Il y a de la vie. Et je trouve aussi... qu'elles vivent en France et dans le monde probablement un moment assez charnière. On en parle de plus en plus, clairement. La forêt, c'est le puits de carbone par excellence.
Et on s'en occupe de moins en moins.
On s'en occupe de plus en plus. Typiquement, la forêt croît de plus en plus. Ça fait 100 ans que les surfaces de forêt et les volumes de bois croissent en France. Donc, de ce point de vue-là, ça semble plutôt bien, quoi. C'est la solution miracle qui, en plus, fonctionne bien, se développe, etc. On a un système de gestion des forêts en France qui, sans être expert, fonctionne quand même plutôt bien.
Je sens le mais arriver.
Et le gros mais, c'est qu'en fait, depuis 10 ans, on a une mortalité des arbres qui est colossale. Enfin, parce que sécheresse, épisode de chaleur qui favorise l'arrivée d'insectes, enfin qui fragilise les arbres et favorise l'arrivée d'insectes. Et donc, il y a des forêts entières qui meurent. La mortalité des arbres a augmenté de 80% en 10 ans, ce qui est quand même colossal. Et donc, on est peut-être à un moment où en fait la solution miracle, le puits de carbone par excellence qui croît, va se mettre à, du fait du réchauffement climatique et des modes de gestion, va se mettre à décroître. Et si ça arrive et qu'on n'arrive pas à redresser le tir, ben, y a plus de solution miracle. Et je trouve ça à la fois, selon l'humeur du jour, un peu flippant et extrêmement exaltant.
Et à minima triste.
Ouais. Et un petit peu triste aussi parce que on voit que l'homme a un impact sur des... Enfin, quand je dis il y a des forêts entières qui meurent, c'est vrai. C'est-à-dire que sur une photo aérienne, tous les arbres sont morts. Tous, mais sur des kilomètres à la ronde. Donc, ouais, ça pose un peu question sur la façon dont on impacte le monde et dont on cherche à gérer le monde. Peut-être qu'il ne faudrait pas trop le gérer, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on peut faire
Quand
on fait
question.
Les constats, en tant qu'entrepreneur, on a souvent envie d'agir, on peut pas être de tous les combats. T'as déjà, dans le premier combat, c'est de le partager.
Ouais, c'est vrai, on peut déjà le partager. Il y a plein de, je vois comme ça, à nouveau, sans être expert, c'est un sujet qui m'intéresse, mais je vois deux axes. Il y a une question de mode de gestion de la forêt. On peut concevoir la forêt comme un champ qu'on va planter en mettant de l'engrais, des traitements phytosanitaires et puis récolter. Ça, c'est une option 1 qui se fait typiquement beaucoup dans les Landes parce qu'il y a du pin maritime, ça s'y prête aussi pour d'autres raisons et ça a aussi des intérêts, c'est pour ça que ça existe. Hein, où on peut voir la forêt comme un endroit vivant avec des arbres petits, gros, pas beaux, des animaux, etc. Et du coup, adapter
d'arbres aussi.
Exactement, ouais. Et adapter son mode de gestion de la forêt et de coupe du bois, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus couper de bois à ça. Donc, on peut essayer de favoriser ce mode de gestion qui est plus durable. Ça, c'est dans la gestion. Donc, il y a des boîtes qui font ça de plus en plus, des exploitants qui se transforment dans leur façon de gérer les forêts. Ça, c'est, alors, après, il faut être exploitant ou bien citoyen. Citoyen, on peut aussi favoriser les boîtes qui font ça. Hein. Ça veut dire. Investir dans ces boîtes en direct ou mettre son argent dans des produits d'épargne et d'investissement qui vont favoriser ça. Enfin, l'économie se structure aussi comme ça. Et puis l'autre enjeu de la forêt, c'est pas le mode de gestion, c'est le réchauffement climatique au global. Bon, et là, c'est les moyens d'action qu'on connaît classiques. Il faut le faire aussi pour les arbres qui sont peut-être un de nos seuls saluts. Hein.
Un de nos saluts, c'est aussi notre descendance. Tu le disais, tu es père de deux enfants. Quel legs tu souhaites leur offrir? Plutôt intellectuel ou philosophique?
J'ai plaisir à penser que l'expérience que je vis à créer, développer YesPark est aussi une expérience qui m'apprend des choses. Des choses très business, on va dire, aussi des choses sur moi-même où je me connais mieux, je pense, qu'il y a 10 ans, mes forces, mes faiblesses, comment je fonctionne. Je vois l'entreprise comme un moyen de m'auto-maîtriser, je pense, c'est un très mauvais anglicisme, mais voilà, d'être meilleur, de meilleur dans la connaissance de moi-même, et je pense et que c'est ça que j'aimerais léguer à mes enfants. Parce que en me connaissant mieux, je vais être meilleur papa, meilleur époux, on y revient.
Meilleur citoyen, meilleur être humain.
Exactement, et j'aimerais léguer ce travail ou cette recherche, cette envie de rechercher ça à mes enfants.
Hier, je le disais, Emmanuel Macron était devant la presse, il a notamment évoqué le temps d'écran des enfants. T'es entrepreneur, t'es dans le digital, t'as des enfants. J'imagine un regard là-dessus.
Ouais, alors nous, c'est les enfants, enfin, parce qu'ils sont encore petits, n'ont pas le droit au téléphone.
Le plus grand à 3 ans.
On a commencé à lâcher, parce qu'il est assez malade en ce moment, quelques dessins animés quand on ne voyait pas d'autres solutions. Pour l'instant, quand même, on s'y tient bien, mais je sens bien qu'arrivé le moment, ils vont nous dire: mais papa, tu passes ta journée devant un écran, maman, tu passes ta journée devant un écran. Il y a une forme d'injustice là-dedans, on peut le voir comme ça en tout cas, qu'il faudrait justifier.
Tu regardes les dessins animés avant de les projeter?
Non, non, non. Alors, on en a fait quelques-uns, mais non, non. Donc, je fais confiance à Tchoupi et voilà.
Oui, ça va. ça reste a priori relativement sain. On va bientôt se quitter, mon cher. Tu ne partiras pas sans avoir choisi une Sisla, une femme entrepreneur que t'admires, à qui on donnera la parole à ce micro avec Solène, notre associée.
Moi, j'ai fait la connaissance récemment de Anaïs Preto, qui a cofondé Live Mentor, qui est une structure qui va former, accompagner des personnes dans leur volonté de devenir entrepreneur, notamment via du mentorat. Je l'ai trouvé pertinent dans les échanges qu'on a eus. On parlait notamment de la raison d'être de nos deux sociétés. C'est une femme. Et je trouve que l'objectif poursuivi par sa société rentre bien là-dedans. Femme entrepreneur, justement.
Qu'est-ce que t'aimerais lui demander? Je te propose même directement de t'adresser à elle et on fera comme pour les questions que tu as été proche. D'ailleurs, j'espère que je n'en ai pas oublié. Je vais refaire un check avant de te quitter. Et je vois que j'en ai oublié une, mais on va rester sur elle. Quelle question tu souhaites lui poser?
Anaïs, tu sembles être une dirigeante qui a de la vision pour ton entreprise. À quel point, toi aussi, tu arrives à rester cantonné à ce travail de vision et à ne plus trop mettre les mains dans le cambouis? Ou à quel point ça te pose des difficultés et t'aimes bien être au charbon et très opérationnel?
Eh bien, cette question, on va lui poser. Tu avais aussi une question que je ne t'ai pas posée de ton autre associé, Charles. On l'écoute.
Vous avez un message.
Salut Thibaut. Ce que j'aimerais te demander, c'est un conseil pour les Charles, Guillaume et Thibaut du passé, en 2014, quand ils se lancent dans l'aventure YesPark.
Super question pour finir.
C'est excellent. Bien se parler, je pense qu'on l'a fait, donc absolument ça, ne pas le changer, très clairement. Et peut-être ne pas hésiter à voir plus de monde, ça aussi on l'a fait, ça faisait rencontrer des gens, ça faisait partie de nos fameuses recettes. Je pense qu'on le fait tous les trois. De manière un peu instinctive et parfois quelque peu désorganisée. Faites-le encore plus, les Charles Thibault du passé. Faites-le plus.
Eh ben moi, j'étais ravi de te parler
également.
Un peu, beaucoup, passionnément, comme toujours, à ce micro. Merci à toi, Thibault.
Merci.
40 nuances de Next.
Les champions de la tech française, comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Olivier Mathiot, Thomas Benzazon et Solène Etienne.